tout de suite.
Tout de suite.
Radio Grenouille en direct du Bloom pour le Festival International Musique et Cinéma Marseille. Bonjour auditeurs, vous êtes bien sur Radio Grenouille, nous sommes au Bloom au sein du cinéma Artplex en direct du Festival International Musique et Cinéma Marseille. Le MCM de son acronyme est la célébration annuelle de la composition musicale à l'image. Un rendez-vous printanier mettant au cœur de sa programmation la rencontre entre professionnels du 7e art et le public. Chaque année, compositeurs et réalisateurs de renom viennent présenter leur dernière œuvre en date, le MCM mettant tout particulièrement en lumière la jeune création cinématographique et la création musicale pour l'image. Une composition internationale est à nouveau en cours pour cette 25e édition. La sélection officielle 2024 propose 10 longs et 65 courts-métrages. Entre projections, rencontres, ciné-concerts, masterclass et bien d'autres choses, le Musique et Cinéma Marseille s'impose comme le festival incontournable pour les amateurs et professionnels du cinéma, yeux et oreilles grands ouverts. C'est du 1er au 6 avril 2024. Au programme de cette émission, nous mettrons à l'honneur la relation singulière d'un réalisateur et d'un compositeur, une collaboration artistique qui donne le ton à une œuvre. Nous allons en explorer ces subtilités avec au micro trois duos de réalisateurs et de compositeurs, tous présents sur cette 25e édition, qui se succéderont. En première partie, Michael Dichter viendra présenter son premier long-métrage « Les Trois Fantastiques ». Il sera accompagné du compositeur Hugo González Pioli ayant réalisé la bande originale du film. Dans un second temps, ce sera le réalisateur Nicolas Peduzzi et le compositeur Gaël Racotondrabé qui viendront échanger sur le documentaire « État limite » en compétition officielle du MCM en catégorie long-métrage. Et en dernière partie d'émission, nous accueillerons Coralie Lavergne et Max Zippel pour le court-métrage « Aïcha » tourné en Provence et sélectionné en compétition officielle. Donc, entre rêves d'adolescents et amitiés incandescentes, l'hôpital public et celles et ceux qui tentent de le maintenir au péril de leur santé, la filiation et le déracinement intergénérationnel, nous traverserons trois œuvres sensibles aux interprétations singulières par les voix de leurs créateurs. Et donc, nous sommes bien en direct sur ce plateau et nous avons été rejoints par Michael Dichter et Hugo González Pioli. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Nous vous accueillons sur les ondes du 88.8 pendant que nous sommes en plein dans le festival MCM. Vous participez pour cette 25e édition avec le film Les Trois Fantastiques, dont la sortie officielle est prévue le 15 mai 2024. On va faire quand même une présentation brève pour les personnes qui ne vous connaissent pas juste par votre nom. On va commencer par vous, Michael Dichter. Vous êtes acteur et réalisateur. Les Trois Fantastiques, c'est votre premier long métrage. Dans ce film, on suit la trajectoire de Max, Vivian et Tom, qui sont adolescents et surtout des amis inséparables. Ils vivent dans une petite ville des Ardennes. Ils rêvent d'aller en colo, mais ils n'ont pas tous l'argent pour réaliser ce rêve. Et c'est ce qui va dessiner une trajectoire dans ce film, notamment avec un élément perturbateur. Le casting, il est assez impressionnant. Emmanuel Berco, Raphaël Quenard, donc, qui joue le grand frère. On spoil un peu en disant c'est un élément perturbateur car il sort de prison et c'est pas fini avec les embrouilles. Évidemment, il faut souligner aussi l'incroyable prestation des trois jeunes acteurs, Diego Murgia, Benjamin Tellier, Jean Devie. Le monde des adultes qui contamine celui de l'enfance. C'est peut-être ce que j'essaie de synthétiser au travers des trois fantastiques. On en a bientôt fini avec ces longues présentations, mais quand même, on va aussi parler de vous, Hugo González-Fioli, puisque vous êtes là, et vous êtes surtout le compositeur des Trois Fantastiques. Vous êtes aussi chef d'orchestre, vous avez réalisé la composition, la bande originale de plusieurs longs métrages, c'est pas la première fois que vous passez au MCM, bien qu'à l'époque c'était à Aubagne, tout proche d'ici.
Oui, c'était dans les premières éditions, il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, ouais.
Oui, alors pas loin effectivement des 10 ans, bah, j'ai la date, c'était en 2006. Vous étiez étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
c'est
Lyon.
Ça, c'est ouais. Ça, exactement. Ouais.
Et vous aviez participé à une masterclass de composition musicale pour l'image, et c'était dirigé par Raphaël Imbert.
Exactement, exactement, vous savez tout.
Vous en gardez un souvenir comment ? Ça va, c'est encore frais ?
Ah oui, un souvenir incroyable, c'était une super masterclass, on a composé tous ensemble une œuvre qu'on a donnée en ciné-concert. Non, j'ai vraiment un très beau souvenir et c'était un beau moment de camaraderie aussi avec toute l'équipe des musiciens.
Et depuis, bon, la route a été jalonnée puisque vous êtes aussi envolé aux États-Unis pour continuer votre carrière.
Oui, j'ai fait un petit passage, aux États-Unis.
Petit passage, petit.
Non, je suis resté 2 ans pour mes études et j'ai travaillé là-bas également. Ouais. Moi, j'ai fait un master de composition de musique de film et j'ai travaillé, j'étais assistant pour un compositeur là-bas. Et quand mon visa s'est arrêté, je suis revenu en France travailler dans la musique de film.
En tout cas, j'ai un indice qu'en 2018, vous étiez forcément en France puisque vous aviez déjà rencontré donc Michael, il me semble.
Oui, avec Hugo, nous on s'est rencontrés sur... en fait, avant de faire les Trois Fantastiques, on avait fait un court-métrage qui s'appelait Pollux.
Oui.
Et il y avait déjà ce groupe de copains, enfin ces trois amis dont tu parlais tout à l'heure. Ils existaient déjà, là on leur fait vivre une toute nouvelle histoire. Et c'est la deuxième fois du coup qu'on travaille avec Hugo. Il était compositeur sur Pollux, sur le cours. Et évidemment qu'il a été compositeur sur le long.
J'aime bien le évidemment.
Non, je dis évidemment parce qu'en vrai, il est monstrueux. Non, mais la musique qu'il fait, elle est extraordinaire. Sur les Trois Fantastiques. Enfin, j'aime tellement sa musique qu'elle est vraiment partout dans le film. Sur 1h30 de film, il y a, je crois, à peu près 1 heure de composition d'Hugo. Et si je pouvais mettre 1h30, j'aurais mis 1h30, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter.
Et est-ce que vous êtes tombé amoureux de sa musique avant de le connaître, ou c'est le fait de faire la connaissance avec Hugo que vous avez découvert après sa musique ?
Non, moi, en gros, avec ma femme, on avait un petit resto à Montreuil, un resto du midi. Et il se trouve que lui, il bossait chez Armand Amar, qui est aussi un grand compositeur. Et Hugo venait manger tous les midis dans mon resto. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, donc je savais même pas qu'il était compositeur à la base.
On a commencé à papoter et un jour il m'a dit ah oui, t'es musicien, ça te dirait de faire la musique de mon court-métrage? Bah ouais, carrément. Donc
ah oui.
Ouais, genre vraiment très facile. Ça a été très facile.
Oui, donc c'est finalement le lien humain qui a précédé ce lien professionnel.
Et c'est, franchement, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est à chaque fois le lien humain qui précède l'œuvre de l'artiste.
Et j'aimerais bien parler un petit peu en amont de vous, ce qui vous a animé personnellement, Michael Dichter, sur, vous l'avez évoqué, Pollux, c'est aussi un trio d'adolescents, c'est la jeunesse quelque part des Trois Fantastiques. Qu'est-ce que vous aviez laissé en 2018 que vous avez eu besoin de reprendre là en 2024, 2023, puisque la production était un petit peu avant?
Ouais. Alors, vous n'avez pas vu Pollux, mais peut-être les Trois Fantastiques. Mais donc, du coup, dans le court-métrage, en fait, il y a trois personnages. Il y a un, enfin, il y a Vivian, Max et Tom. Et dans le court-métrage, c'était Vivian. Ah, dans le court-métrage, c'était Vivian, excuse-moi. Dans le court-métrage, c'était Vivian qui était le personnage principal. Sauf que, à la fin du film, à la fin du court-métrage, je me suis rendu compte, ça c'est. Parfois, tu as des évidences à l'écriture et parfois, tu découvres des choses au tournage et même parfois après au montage. Mais je me suis rendu compte que le personnage qui vivait le plus de conflits, c'était Max et c'était pas Vivian. Et la relation de Max qu'a son frère, qu'apparaît à peine dans le court-métrage. Donc dans le long-métrage, c'est lui qui est devenu mon personnage principal, parce que en vrai, dans les films, on aime bien s'attarder sur ceux qui vivent le plus de conflits. Donc c'est comme ça qu'est né les Trois Fantastiques, en partant de cette nouvelle histoire-là, de ce nouveau duo.
Et vous, Hugo, qu'est-ce qui vous a séduit, mais d'ailleurs dans ces deux projets?
Forcément,
en dehors de la relation de la...
C'est déjà la place, Michael est aussi passionné que moi de musique de film et de musique en général, donc je sais que pour lui c'est vraiment une importance énorme. Donc c'est quand on rencontre un réalisateur, un ami ensuite, mais un réalisateur avec qui on discute et qui va me dire voilà, ben, je veux une heure de musique dans mon film, je veux qu'il y ait de la musique, je veux qu'on, que ça nous retourne les tripes, je veux qu'on ressente des choses, je veux qu'il se passe de l'aventure, qu'il y ait des courses-poursuites. Déjà, quand on nous vend le projet comme ça, c'est assez excitant pour un compositeur parce que on sait qu'on va, on va s'éclater, quoi. Donc déjà de base, même si ça a annoncé un gros travail de composition, mais c'était quand même un beau projet, de, vraiment très chouette, quoi, en tant que compositeur.
Et ça sous-entendait aussi que ça vous laissait une grande liberté.
Oui, bah, il n'arrêtait pas de me dire, propose-moi des choses, propose-moi, vas-y, donne-moi. Et c'est très agréable. Voilà, on n'est pas enfermé dans quelque dans.
Non, et je, simplement sur le fait d'être aussi ami dans la vie. C'est ce qui fait aussi qu'on a travaillé sur la musique. Et donc, du coup, Hugo avait commencé à composer la musique déjà sur scénario. Donc, un an avant le tournage du film, on avait déjà quelques musiques de film. Et oui. Alors, on habite vraiment pas loin l'un de l'autre.
Ce qui est pratique.
Ce qui est aussi pratique. Mais, et on adore passer du temps ensemble. Et moi, j'adore l'écouter, composer, écouter ces choses-là. Donc, c'est quand même hyper... c'était beaucoup de travail, mais très, très excitant, quoi.
Oui, ce qui est assez dingue, bon, pour finir sur ça, c'est que la première musique qui a été composée sur scénario est restée, en fait. Ce qui est quand même assez rare, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs films sur scénario, montage, et voilà, les films peuvent vraiment changer. Et cette musique-là est restée, c'est le.
Ouais,
c'est le
thème. Et d'ailleurs, c'est la musique qui clôture le film. Ouais. La première musique qui a été composée par Hugo, c'est la musique qui clôture le film à la fin.
Mais d'ailleurs, d'après vos précédentes expériences, Hugo, est-ce que c'est quelque chose justement d'atypique d'avoir déjà une composition sur scénario alors que rien n'a été tourné, que peut-être le scénario n'est pas finalisé ?
Alors, je dirais pas que c'est atypique, c'est de plus en plus rare parce que bon, je pense qu'en tant que compositeur, on aime bien avoir le montage. Ça crée un cadre et un cadre de travail et même par rapport au temps. Il y a plein de raisons qui font que c'est plus agréable sur le montage, mais. Mais dans le cadre d'une amitié avec Mickaël et d'un travail on se connaît depuis des années, on a fait le court-métrage ensemble, ça se pose même pas. On a travaillé sur le scénario, on a travaillé pendant le montage, à toutes les étapes. Il a diffusé les musiques aux acteurs pendant qu'ils tournaient.
Oui.
Ouais. Donc, et ça, c'est incroyable. Moi, la référence que j'ai en tête des gens qui ont fait ça, c'est Ennio Morricone avec Sergio Leone sur les tournages, quoi. Donc c'est.
C'est sympa. Hein.
Ouais.
C'est clair.
Sans nous.
Mais en tout cas, ça démontre aussi que vous avez une réelle confiance, croyance dans le pouvoir émotionnel de la composition musicale.
Ah ouais, c'est un énorme acteur. Mais tout, enfin, l'image, le jeu, le scénario, la mise en scène, évidemment, la musique, tout ça, ça fait qu'un film... Enfin, tu vois, c'est que des étapes que tu peux... Enfin, pas des étapes, comment tu dis ? C'est des couches que tu mets les unes sur les autres et s'il y a une harmonie qui se crée, bah, t'as tout gagné, quoi.
Là où c'est aussi une affaire de goût, c'est quelle place on laisse à chacun de ces éléments. Effectivement, là, dans Les Trois Fantastiques, la place de la musique, c'est presque une actrice à part entière. Et donc là, vous l'avez énoncé, c'était une volonté dès le départ. Comment on fait pour créer à la fois de la puissance tout en gardant une subtilité, c'est-à-dire que la musique ne prenne pas le pas non plus sur l'image, sur le jeu d'acteur, sur le montage ?
Bah, déjà, il y a un énorme kiff de notre part d'écouter la musique très fort tout le temps. Donc, au départ, on n'est pas les meilleurs juges. Mais nous, ce qu'on faisait pendant le montage, c'est qu'on faisait des projos mystères. C'est-à-dire qu'avec la monteuse, on invitait à venir voir le film en montage. Et on faisait ça toutes les semaines. Des gens qui n'avaient ni vu le court-métrage et qui n'avaient pas lu le scénario. En vrai, des gens qui ne connaissaient pas forcément. Donc, c'est des amis, d'amis comme ça. Ça revenait au départ peut-être un peu trop de musique. Et en fait, le trop de musique, c'était juste une traduction de « c'est peut-être un peu fort ».
Et j'aimerais bien d'ailleurs, parce que là, on en parle...
Et du coup, c'est corrigé au fur et à mesure. Oui. En fait, au fur et à mesure, après avoir fait 200 visionnages, à un moment, tu trouves ton équilibre où le commentaire arrête de ressortir et tu dis « putain, elle est vraiment top, la musique ». Fais « ok, c'était juste peut-être une question de volume ».
Ouais, et de dosage aussi, parce qu'évidemment, il faut l'image respire d'elle-même. Il y a un discours dans ce qu'il a réalisé, donc... On n'a pas besoin de tout forcément souligner, surligner. Donc oui, ça a été des petits réglages. Il y en a quand même un bon paquet. Mais je pense qu'elle est bien dosée. Et elle a vraiment un vrai rôle et, dans le film.
Oui, vous l'avez bien expliqué. Parce que c'est vrai que c'est toujours une prise de risque aussi. Quand on a des scènes qui sont d'une réelle intensité, de venir souligner avec notamment des notes orchestrales où tout de suite on prend la place aussi.
Mais bien sûr,
c'est un équilibre. Oui. C'est un équilibre. En vrai, c'est un équilibre.
Et donc, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit temps d'écoute, puisque c'est agréable de parler de musique, mais des fois, c'est encore mieux d'écouter aussi la composition.
C'est énorme. Vous avez la musique ?
On a sélectionné un extrait.
C'est énorme. C'est énorme.
Alors, c'est vrai qu'on ne vous a pas prévenu, donc on vous prend un petit peu de cours. Ouais. L'extrait qu'on a choisi, c'est la scène du Laser Game. Alors, vous riez. On reviendra un petit peu à.
Bien sûr.
On pourra y revenir de pourquoi, justement, spontanément, ça suscite quand même un éclat de rire. En tout cas, pour remettre dans le contexte pour les auditeuristes qui nous écoutent, il s'agit d'une scène de Laser Game avec Max, Vivian et Tom, sous l'invitation de Seb, le grand frère de Max, qui est donc tout juste sorti de prison, qui n'en a pas tout à fait fini avec les embrouilles et qui essaye plus ou moins de se racheter avec cette scène du Laser Game.
Donc si vous touchez au niveau du ventre, ce sera 1 point, 2 points et 3 points ici. Vous allez voir, vous allez vous amuser avec un parcours au top. Sur votre combinaison, vous aurez soit le plafond rouge ou bleu, la détermination de votre équipe. Donc,
ça va les couilles.
Allez,
faites attention au matériel, s'il vous plaît.
Par contre, vous avez déjà carotté 5 minutes, là.
J'en ai compté 10, on a intérêt à aller voir à la fin.
Ah, bande d'escrocs.
Bon, allez, amusez-vous.
Allez.
Je suis pas un pro, je joue de la trompette, mais soyez vifs.
T'es pas toujours par l'entrée principale.
Tu vas où ?
Laisse-moi pas les couilles.
Seb !
Vous êtes toujours en direct sur Radio Grenouille pour le plateau musique et cinéma Marseille dans le cadre du festival. Nous sommes avec Michael Dichter et Hugo González-Pioli. Et c'était une séquence du film Les Trois Fantastiques. Cette séquence, c'est la séquence du Laser Game. Elle est assez riche d'un point de vue sonore. Lorsque je vous ai annoncé, avant qu'on diffuse l'extrait, qu'on avait choisi cet extrait-là, vous avez mutuellement explosé de rire. Pourquoi ?
Non, c'est, en fait, il y a deux musiques électro dans le film, et où vraiment c'était la première fois qu'Hugo s'amusait à faire ça. Donc c'était très très cool à faire. Et non, on rigolait parce que tout le reste des musiques a été enregistré, tu sais, en studio avec vraiment beaucoup de musiciens, etc.
Et c'est la seule.
Et c'est la seule qui est une musique électro, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc Hugo, c'est un peu ton solo.
Oui, non, mais il y a un gros travail, cette séquence, comme tu dis, même au montage son avec Damien, le monteur son, et. Comment faire marier la musique, la tension, la faire redescendre, ce qui se passe à l'image, de jouer avec les bruitages, moi de jouer avec le côté musical. Et, donc il y a un travail très étroit avec plusieurs personnes pour pouvoir créer ce genre de séquence, en fait. On ne peut pas rester seul à faire sa musique, c'est ce qui est vraiment intéressant.
Et donc pourquoi justement cette entorse de l'électronique ? Là sur la tonalité,
parce que c'était un désir laser game. Je pense que jeune, ça vient aussi faire une rupture avec. Je pense que c'est important d'avoir des ruptures dans certaines séquences dans le film. Et là, ça, c'était quelque chose d'assez dynamique, je pense, sur la séquence.
Et puis, en vrai, le film, il commence comme un buddy movie. Ça commence comme un film de copains à la Stand By Me ou les Goonies, etc. Sauf que très très vite. On change de genre. Et en fait, dans le film, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer de genre vraiment. Enfin, il y a plein de moments où tu passes du polar au thriller, du thriller, enfin, tu vois, au body movie, au drame, etc. Il y a ce truc-là de changement de genre, mais qui va aussi avec la musique. À ce moment-là, dans le film, on n'est pas à la fin du film, mais on doit être aux deux tiers du film. Il y a une énorme montée d'adrénaline pour tous les personnages qui sont en train de. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent pile à ce moment-là du film. De pouvoir la soutenir avec un truc électro qui est aussi très très lié au laser game. Hein. C'est-à-dire que c'est techno, l'univers. Électro, c'est l'univers du laser game. C'est ça qu'on est allé chercher avec des inspirations comme Mortal Kombat. donc c'était aussi ça qui était intéressant, de s'amuser aussi avec la musique.
Ouais. Ce que vous avez souligné là sur Les Trois Fantastiques, de cette pluralité aussi de styles, de genres cinématographiques, on la ressent aussi bien dans la colorimétrie que effectivement dans on prend racine dans quelque chose qui est presque bucolique, c'est-à-dire que c'est un milieu rural, mais il y a la cabane dans les bois avec les trois jeunes, leurs posters, leur côté un peu fantasme d'adolescent. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça s'assombrit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contamination, en lien effectivement avec la criminalité du grand frère, mais pas que, peut-être aussi de cette sortie d'adolescence. Et donc c'est vraiment pensé autant d'un point de vue du son que de l'image, où il y a une tonalité qui monte, ça monte en tension, mais aussi c'est comme si on allait progressivement vers la nuit.
C'est exactement comme ça qu'il a été pensé, le film. On commence vraiment à l'aube, enfin même pas à l'aube, on commence vraiment à midi, c'est-à-dire que le soleil, c'est très très solaire au début du film, oui. Et au fur et à mesure on s'enlise comme ça dans les ténèbres, mais c'était voulu que au son, à l'image, oui, à même niveau. Dans les décors, etc., que tout s'assombrisse au fur et à mesure, ouais. Et c'est très juste sur ce que tu disais sur ces gamins qui doucement basculent vers l'âge adulte. Tu peux le faire de façon très tranquille, de basculer vers l'âge adulte, mais le mot juste basculer, il y a un truc de. Tu tombes à la renverse, quoi. C'est un truc qui est très très rapide. Enfin, les événements qui leur arrivent leur font.
Ils les font grandir soudainement.
Ça les projette trop rapidement. Et ces deux mondes qu'il y avait, donc le monde des enfants dans lequel ils ont commencé à évoluer, le monde des adultes, qui est là mais qu'on voit pas des masses, à un moment ces deux mondes finissent par, c'est l'upside down dans Stranger Things, oui. À un moment les deux mondes finissent par se lier et c'est là que ça devient intéressant, quoi.
C'est intéressant aussi de souligner, de faire le lien avec Stranger Things, parce qu'effectivement il y a aussi ce côté buddy movies et de le groupe adolescent dans leurs interrogations de passage à l'âge adulte, mais bon, Stranger Things arrive à garder presque jusqu'au bout cette naïveté mais qui est presque superficielle, là où c'est vrai que dans Les Trois Fantastiques, il y a comme un retour de réalité ou un principe de réalité qui rend ce film à la fois accessible pour des adolescents, mais aussi à destination d'adultes. Et je voulais aussi demander, avant qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que vous en avez fini avec les trios, duos adolescents, ou est-ce que prochain long métrage, on retrouvera aussi cette adolescence un peu torturée qui est en questionnement ?
Alors sur le prochain film, on retrouvera Hugo.
Ah.
C'est la seule personne qu'on retrouvera. Non, on
le
retrouvera
lien avec
Hugo.
L'adolescence, non.
Je travaillerai toujours avec Hugo sur le prochain film. Okay. Mais par contre, ce sera enfin, ce sera plus du tout sur l'adolescence. Je garderai aussi beaucoup de tension, ce qui arrive au fur et à mesure du film dans Les Trois Fantastiques, mais là on tombera directement dedans très rapidement. Gros film de genre.
Ok, bon teasing. Et en tout cas, j'ai l'impression que ce projet de long métrage, il semble avoir validé votre collaboration au long cours.
Ah oui, complètement, ouais.
Parce que c'est aussi c'est monstrueux en termes de charge de boulot, un long métrage.
Ah, mais c'est une énorme responsabilité. Et moi, je l'ai senti, même si j'ai travaillé sur deux longs métrages avant, mais c'était en co-compositeur. Là, pour moi, je le considère vraiment comme mon premier long, dans le sens où j'ai senti vraiment une responsabilité énorme à tous les niveaux. Parce que on est beaucoup de personnes impliquées, on veut tous donner le meilleur. Et je pense qu'on s'est bien battu.
Merci Michael Richter et Hugo González Pioli pour cet entretien.
Merci à toi.
Et donc Les Trois Fantastiques sera programmé le samedi 6 avril dans le cadre du festival à 11h à l'Artplex au moment où on enregistre cet entretien. Je crois que les réservations sont possibles en ligne, mais c'est pas dit qu'il reste des places.
Ouais.
Oh, okay.
Je crois pas.
Ah ouais. C'est une annonce qui tombe à l'eau, mais en tout cas, ça n'empêche pas de rester en veille pour découvrir ce très beau film. Et nous continuons donc ce plateau. Avant de continuer, donc, on va d'abord écouter la musique de Gaël Rakotondrabé, And I Love Her. On se retrouve dans quelques minutes. Précision quant à cette musique. Donc, le compositeur Gaël Rakotondrabé, qui viendra présenter le documentaire État Limite avec Nicolas Peduzzi dans quelques minutes, vient de sortir ce titre sur son album, premier album Shadow, dans la collection For Musician Only de Caramba Records. Il ne s'agit pas non plus de son premier geste musical, mais ça, on le reprécisera tout à l'heure. A tout de suite sur le 888 de Radio Grenouille. Thank you. Nous sommes en direct du Musique et Cinéma Marseille, le festival international de composition musicale à l'image. Nous sommes au Café Bloom, au rez-de-chaussée de l'Artplex. Et nous sommes avec Nicolas Peduzzi et Gaël Racoton-Drabé. Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Gaël Racoton-Drabé, on va devoir faire des présentations tout de même, puisque pour certains, certaines, votre nom va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui vous connaît, puis pour d'autres auditeuristes, peut-être pas. Donc, pour les présentations, Gaël, vous êtes compositeur, mais aussi pianiste de jazz. Vous avez collaboré avec bon nombre d'artistes, pour n'en citer que quelques-uns, Coco Rosi, Anoni, Ayo. J'ai fait ma propre liste, hein, c'est exhaustif, non exhaustif, pardon. Ouais. Vous avez aussi fait la composition originale de plusieurs documentaires, dont le remarqué Mister X, présenté à Sundance. Vous venez de sortir votre premier album, on en a écouté un des titres juste avant de reprendre l'antenne. C'est Shadow. Bon, c'est votre premier album en leader, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul sur cet album.
Ouais, je suis en trio, c'est mon premier album en tant que leader de groupe.
Vous travaillez pour la première fois avec Nicolas Peduzzi pour le documentaire « État limite ». Nicolas Peduzzi, à votre tour pour les présentations. Vous êtes réalisateur. Il s'agit de votre troisième long métrage après le documentaire « Ghost Song » et le documentaire « Thurston Bell ». J'essaye avec un accent très français. Qui a eu le grand prix de la compétition française du film Marseille l'année dernière. L'année dernière, oui, il y a 2 ans. Non, 4 ans. Oula, le temps passe vite. Et là, vous êtes en lice pour la compétition 2024, cette fois, officielle du MCM, pour État limite.
C'est ça.
On est tout bon ?
On est tout bon.
On est tout bon.
Southern Bell, mais c'est très très dur à dire. Moi-même, j'ai du mal.
Et pourtant, vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis, au Texas notamment.
C'est ça, mais il y a quand même l'accent français qui
ça résiste.
Qui résiste.
Alors, pour revenir à État limite, État limite, c'est un documentaire qui se déroule dans les murs de l'hôpital public Beaujon à Clichy. On y suit de très près, que ça soit au niveau des pensées ou même au niveau de la proximité de caméra avec les corps. On suit le psychiatre Jamal Abdelkader. C'est le seul psychiatre en fait de ce service et ça témoigne beaucoup, surtout d'une institution en crise et à bout de souffle. C'est un environnement qui est surchargé d'un point de vue sonore. Il y a les bruits des machines, il y a les corps, il y a la détresse des gens, il y a beaucoup de mouvements. C'est presque un défi d'y ajouter de la composition musicale par-dessus, ou en tout cas d'arriver à la tresser avec cet environnement sonore-là. Comment vous vous êtes saisi de ce défi, Gaëlle, quand on vous l'a proposé ?
On en parlait il y a à peine 5 minutes.
Ah oui.
C'était vraiment une collaboration à trois mains avec Nicolas Peduzzi à la réalisation, Nicolas Burlatia au montage et moi-même. On s'est posé moult questions sur chaque scène. Est-ce qu'il en faut ? Est-ce qu'il faut de la musique ? Qu'est-ce que la musique doit apporter ? Est-ce qu'elle doit être un narrateur ? Est-ce qu'elle doit, elle doit raconter autre chose ? Est-ce qu'elle doit accentuer ce qu'on voit à l'écran ? Et en fait, ça a été assez long à faire, mais on a adoré ce processus d'essayer d'être juste. Essayer d'apporter un nouveau caractère, un nouveau personnage au film avec la musique.
Et là où il y a quelque chose de très délicat, c'est que l'intensité du sujet qui traite le film, le niveau de tension déjà ambiant en fait qu'on ressent dans les images, la musique, elle peut soit permettre de prendre de la distance, soit accompagner, soit alourdir. Mais arriver à être sur le bon fil. J'imagine que dans la position de compositeur, ça doit être questionnant quand on doit coller à ce sujet-là.
Ouais, c'est un sujet effectivement qui requiert de passer beaucoup de temps. On est sur le fil tout le temps de passer d'être trop lourd ou parfois on a vraiment l'impression d'en faire trop. C'est très rapide en fait de se dire là peut-être qu'on a déjà passé. On est déjà passé dans le trop heavy, trop, c'est trop musical en quelque sorte. On est toujours sur un fil, quoi. C'est pas évident.
Dans votre présentation, je disais que vous étiez donc pianiste. Là, c'est un album plus jazz que vous venez de sortir. Mm-hmm. Et pour autant, là, dans le documentaire État limite, on est aussi sur des tonalités très électroniques.
Ouais.
Donc bon, c'est votre côté un peu pluriel dans votre composition qui ressort, mais en ce qui vous concerne, vous, Nicolas, vous saviez dès le début que c'était plutôt sur de l'électronique que vous alliez pencher en termes de composition ?
À vrai dire, au tout début, je me suis dit il n'y aura pas du tout de musique.
Ça mérite d'être honnête.
Parce que l'hôpital, tout ça. Et finalement, au fur et à mesure de la rencontre avec Jamal, donc le docteur, le psychiatre, je me rends compte qu'il est très musical dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, qu'il a un rythme. Et je pense immédiatement à la musique de Gaël, en fait, parce que Gaël, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un musicien aussi qui parle à travers sa musique. Du fait que Jamal soit seul, j'avais besoin de quelque chose qui dialogue avec lui plutôt qu'une musique qui accompagne, disons. Et c'est ça vraiment qui... Et j'ai vu, je connaissais le travail de Gaël, je l'avais vu improviser. Là, comme vous disiez, c'est son premier album, mais il a fait beaucoup, beaucoup de live avant. Et donc, je l'ai vu une fois jouer sur un piano qui était pas accordé. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il réussissait à embrasser ce truc-là. Et avec l'hôpital, c'était un peu ça aussi. C'est vrai que c'était délicat parce qu'on m'a souvent dit, mais de la musique sur un hôpital, c'est touchy, etc. Et en fait, tous les les personnes qu'on voit dans le film sont tout le temps avec de la musique aussi dans la solitude, etc. Donc, je pensais vite aussi à de la musique classique et lui, il a cette capacité de pouvoir, avec la musique classique, faire du jazz, mais aussi de l'électro. Donc, ce pluralisme qu'il a, c'était parfait pour un sujet comme ça.
Même avant donc de rencontrer Gaël, vous aviez senti cette patte presque organique au rapport à la musique.
Ouais, avant de rencontrer Gaël, je le connais depuis pas mal de temps.
on se donne une fourchette depuis quoi ?
Ça fait combien de temps que vous... Enfin, presque une dizaine d'années.
Plus ça commence à faire.
Ouais, ça commence à faire. Donc j'avais pas du tout commencé le film et en fait, non, c'est venu vite l'envie de travailler avec Gaël, même avant le film en fait. Et du coup, je me suis dit d'avoir de la musique que des nappes électro ou autre chose, ça ne pouvait pas trop marcher avec ce film-là. Il fallait aussi être un peu dans l'intérieur des gens, dans quelque chose de la psyché, et de la psyché de Jamal surtout. Et voilà, donc c'est ce qui s'est fait, on en a beaucoup discuté.
J'ai rencontré aussi Jamal
pendant le tournage.
Il y a eu ça.
C'était important, je pense. Ouais. Ça a importé à Nico que je le rencontre et ça a été effectivement un moment clé pour la composition.
En tout cas, pour faire lien avec cet aspect introspectif et profondément psychologique de ce documentaire, c'est une transition toute faite par rapport à l'extrait sonore qu'on a sélectionné, puisque c'est toujours intéressant de parler de musique et de composition, mais c'est des fois encore mieux de la donner à entendre. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est un extrait sonore qui arrive à peu près au tiers du film. Je ne vais même pas en dire plus, puisque je crois que l'extrait est assez parlant dans la thématique et dans l'intensité émotionnelle et sémantique de ce film.
Non, mais je vais essayer de passer mon bac.
Ouais, par exemple, faites ça. Mais sans vous mettre une pression folle, hein.
Le problème, c'est que moi, je lutte contre une logique où on peut pas quantifier ce que je fais. Et comme on est dans une logique à vouloir quantifier tout, bah, ça dévalorise ce que je fais. Parce que la relation, enfin, moi, je fais de la relation. Concrètement, c'est de la relation. C'est de bâtir des relations de confiance, des relations de soin. Mais ça, ça n'a pas de prix, en fait. Si je t'opère de la cataracte, ça dure 15 minutes, la cataracte. Mais moi, ce que je fais, c'est pas prévisible. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de construire un lien et d'apaiser une personne, de rencontrer sa famille et de l'apaiser, de lire son dossier, des fois, ça me prend une heure. Donc en fait, le problème, c'est que quand c'est comme les choses sont réfléchies comme ça, on se dit, bah en fait, pourquoi on va payer deux psychiatres ou trois psychiatres pour voir deux personnes? En principe, il n'a pas besoin de prendre autant de temps, tu vois. Ouais, donc il y a cette jeune fille là qui est arrivée là il y a quelques jours là à l'hôpital là. Elle a fait une tentative de suicide assez grave. C'était pas la première en fait. Elle a fait un nombre de gestes suicidaires incalculables là depuis qu'elle est devenue pubère. Elle a été dans tous les services de psychiatrie qu'on puisse imaginer en Île-de-France. Elle a un peu épuisé tout le monde et en fait pour essayer de d'apaiser un petit peu sa souffrance là depuis maintenant plusieurs années, elle s'est essayée à prendre un milliard de trucs. Là, quand on a fait le répertoire de tout ce qu'elle a pris, enfin c'est l'un des trucs que je connaissais pas, une nouvelle drogue de synthèse, elle me disait que finalement c'est la substance qui l'apaisait le plus, c'était la kétamine. Et donc là, je me dis c'est peut-être un heureux hasard qui fait que cette molécule vient de sortir là. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on l'essaye sur elle.
C'était donc un extrait du documentaire « État limite ». Donc, j'ai envie de dire, le ton est donné, que ce soit au niveau de la composition musicale qu'autant au niveau du propos. Donc là, étant donné qu'on est en radio et qu'on n'a pas l'image, pour faire une description rapide, c'est la première séquence où on a des plans fixes sur des photographies. Ces photographies, d'après mes renseignements, elles ont été prises par Pénélope Chevelot. J'espère que je prononce bien son nom de famille.
C'est ça, ouais.
C'est une ancienne reporter de guerre et par ailleurs, c'est aussi votre mère, Nicolas Peduzzi.
C'est vrai, tout à fait. C'est ma mère.
En tout cas, quand j'ai trouvé cette information, j'ai trouvé ça intéressant, pas seulement que ça soit votre mère, mais aussi qu'elle ait été précédemment reporter de guerre. Puisqu'il y a presque un état de siège dans cet hôpital, dans la panique, dans le fait d'être seule et d'être perdue dans la détresse des gens. Et donc j'ai l'impression que vous avez pu aussi faire cette collaboration-là avec donc Pénélope Chevelot pour faire ces photographies, j'imagine, argentiques.
Ouais.
Puisqu'il faut avoir aussi une proximité avec cette détresse que les gens vivent en hôpital psychiatrique, ou en tout cas la détresse des gens, pour arriver à les photographier de manière juste.
C'est vrai que assez vite... Alors déjà, petite anecdote, en fait, je connais l'hôpital, parce que j'ai passé du temps, surtout ma mère a passé beaucoup de temps dans les années 90 avec mon père qui a été soigné là-bas, en service de... Donc c'est un hôpital généraliste, et lui, il était en service hépatologie, il avait reçu une transplantation du foie. Et on y retournait avec elle, effectivement, en plus, c'était début du premier confinement. Donc il y avait aussi cette idée un peu dont ils ont joué pas mal, de guerre, etc. Mais c'était pas la raison. Moi, la raison, c'était que vraiment, j'avais envie d'une personne aussi, que le film soit un tout petit peu collectif et qu'il y ait une personne qui connaît l'endroit et qui fasse aussi, qui ait son point de vue à elle, des choses qu'elle connaissait de l'architecture du lieu. Et donc, je lui avais proposé de venir. Et voilà. Et c'était aussi une façon de dézoomer sur l'hôpital, d'avoir quelque chose d'un peu figé sur la situation en général, mais sur cet hôpital qu'elle a connu aussi avant, à un moment où vraiment, à l'intérieur de l'hôpital, les chefs de service connaissaient toutes les infirmières ou infirmiers par leur prénom. Il y avait vraiment un truc très familial. Et j'y suis retourné 20 ans après avec cette idée-là. Et finalement, oui, effectivement, j'ai été très bien accueilli dans plein d'endroits, mais c'est en rencontrant Jamal, le psychiatre, donc le seul psychiatre de l'hôpital, que j'ai vu un peu aussi comment la psychiatrie en fait était reçue à l'intérieur d'un hôpital général, quoi.
Et c'est vrai que ces photos en noir et blanc, elles arrivent comme ça dans le film. C'est un choix profondément audacieux parce qu'on s'y attend pas du tout, et ça apporte encore plus de finesse au propos, puisque tout à l'heure on évoquait l'aspect introspectif, psychologique de ce film. Là donc on entend la voix du docteur Abdelkader qui se cale donc en fait sur ces photos, et en même temps avec tout le design sonore des sons ambiants de l'hôpital, plus votre composition, Gaëlle. Et vous, ces séquences-là, est-ce qu'elles étaient différentes en termes de travail?
Elles ont pour cette séquence, je crois que c'était ça. Et j'avais en fait, ce qui est, en réécoutant, je me rends compte à quel point ce que dit Jamal fait partie de la musique. Et je me souviens d'une des premières fois où on a travaillé ensemble, c'était autour de mon piano avec le film. Et j'improvisais carrément avec le dialogue de Jamal. Et les idées me venaient dans les... Donc je remplissais dans les trous et j'entendais évidemment... Je faisais avec les sirènes d'ambulance et les bruits de... Et ça a été vite un choix d'utiliser ces bruits qu'il y a dans les hôpitaux, dans la musique, même après, plus tard, pour faire même des samples un peu techno et dans des musiques qui viennent un peu plus tard dans le film.
D'ailleurs, quand on vous a annoncé qu'on avait choisi un extrait sonore, on s'y est pris un peu tardivement, et donc on a eu l'information trop tard par rapport à quand on a extrait l'extrait sonore. Vous aviez la préférence de parler d'une séquence où c'est une pièce de théâtre qui se déroule donc au sein de l'hôpital avec des patients, puisque donc le psychiatre Abdelkader, il a plein de casquettes. Effectivement, c'est un personnage. Presque, bien sûr qu'il est réel, mais il y a quelque chose où, évidemment, quand on rencontre cette personne, on a envie de faire un film sur lui, puisque à lui seul, déjà, il a presque 8 métiers, aide-soignant, psychiatre, médecin, presque conseiller familial. Enfin,
on dirait un acteur.
Oui, on dirait un acteur. Et donc, parmi ces casquettes-là, il y a aussi l'accompagnement ou l'animation, on ne sait pas trop, d'une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, c'est quelque chose de presque un peu décalé dans le film, puisque on est avec ce qui
dramatique.
Est... Oui, il y a quelque chose de un peu de comédie dramatique, puisqu'on est avec ce qu'on appelle vulgairement des fous, qui jouent Roméo et Juliette, et qui ont souvent eux-mêmes fait des tentatives de suicide. Et donc toute la délicatesse quand même de venir induire de la musique sur une scène comme ça, enfin, c'est tendu, enfin, c'est audacieux.
Ouais.
Comment vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Parce que vous vouliez parler de cet extrait-là, hein, donc je reviens dessus. Hein.
Bah, en fait, c'est une des scènes que je préfère dans le film, moi, personnellement. C'est, alors là, je crois qu'il y avait utilisation de temp music. Nicolas me parlait beaucoup de Isao Tomita, qui est un compositeur de musique électronique, mais qui reprenait des choses de classique, du Debussy, un peu comme Wendy Carlos l'a fait avec Stanley Kubrick. Et donc au début, je ne comprenais pas très bien son choix, mais après j'ai vu la scène et je trouvais que ça amenait beaucoup de féerie et qu'on sortait un peu de l'hôpital dans cette scène, en fait.
Oui, parce qu'il y a de la joie aussi dans cette scène.
Il y a de la joie et et j'avais envie d'amener un peu plus loin dans la féerie, et donc j'ai utilisé beaucoup de synthé et on est parti dans quelque chose d'un peu différent du reste du film. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de cette séquence.
Oui, c'est vrai que c'est une scène particulière et c'est un endroit que Jamal réquisitionnait presque illégalement. Il n'avait pas vraiment le droit. Donc c'était entre une réunion de crise de Covid à l'époque et il avait pris un peu en loose-dé cette pièce pour faire un atelier de théâtre. Et à moi, quelque chose de magique qui s'est passé personnellement, c'est que j'ai vu des patients avant se transformer complètement pendant le théâtre. Et le théâtre, c'est bien, mais c'est aussi une excuse en fait pour créer ce lien-là. Et en fait, voilà, on avait envie de sortir d'un truc naturaliste et vraiment de partir dans une envolée. Et Gaël a parfaitement saisi un peu l'essence, je crois, de ce qui se passait. Et aussi la façon de sublimer un peu tout ce qu'ils avaient tous vécu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide graves, et de jouer Roméo et Juliette. Il y a quand même quelque chose de profond là qui est touché, quoi.
Qui est presque résilient.
Ouais, presque un peu résilient. Et un humour aussi. Mmh. C'est une façon d'en rire, de relâcher quelque chose. Et ouais, ça s'est fait assez... On avait déjà d'abord mis l'Isao Tomita et ensuite t'as repris le truc, t'en as fait quelque chose à toi, personnel, quoi.
Un autre aspect qui est très cinématographique dans État Limite, c'est bon. Évidemment, le choix de la scène d'introduction est parlant parce qu'on suit de dos l'aide-soignant Romain, qui est quand même un protagoniste important dans le documentaire. Et il a tatoué dans la nuque le signe ON, comme sur les machines. Et on dirait que c'est presque fait pour le film. Non, mais c'est fou, ce truc-là. On suit quand même des personnes où leur métier est en train de s'écrouler au niveau des conditions de travail et qui sont tous et toutes convaincus de pourquoi ils ont choisi ce métier-là. Il y a notamment une scène qui est profondément interrogante et belle aussi, d'un échange entre Jamal, donc le docteur, et Romain, l'aide-soignant, où il s'interroge sur la porosité de ce qu'il traverse avec les patients du fait de la dégradation de leurs conditions de boulot et aussi de voir toutes ces angoisses au quotidien et de ne pas pouvoir s'occuper correctement des gens, combien ça fait un effet de transfert, un effet de miroir. Et je pense que, peut-être pas n'importe qui, mais en tout cas beaucoup de spectateurs et spectatrices en voyant ce documentaire se poseront aussi la question. Est-ce que vous, en documentant quotidiennement cet hôpital, ces enjeux, ces problématiques, en étant plus près de Jamal, ça vous a fait cet effet miroir aussi?
Moi, ça m'a fait cet effet miroir. Ça me l'a fait, et ça a été vraiment... Il y a eu plusieurs périodes, parce qu'on l'a quand même filmé sur 2 ans et demi.
C'est beaucoup. Donc,
ouais, et pas tout le temps. C'était vraiment... avec tout était un peu éparpillé dans le temps. Ensuite, il y a eu des confinements ou des couvre-feux. On ne pouvait pas y aller tout le temps. C'est pas un hôpital psychiatrique, c'est un... Un hôpital général, donc il y a des situations qu'on ne pouvait pas filmer. J'imagine aussi dans un hôpital psychiatrique en vrai, mais voilà, là c'était encore, des fois encore plus grave parce que c'est comme vous avez vu dans le film, il y a des gens qui sont amenés aux urgences, qui sont en réanimation. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu filmer, c'est vraiment un fragment de sa vie. Mais c'est vrai que moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'a toujours questionné toute ma vie. Je me suis posé plein de questions là-dessus. Et en voyant des situations comme celle que Jamal. Auquel Jamal est confronté tous les jours, en fait, on peut vraiment s'identifier, même si c'est très grave, mais en fait, c'est quelque chose de très humain et des gens qui sont dans des douleurs bien plus, enfin, qui ont des maladies ou qui ont des souffrances bien plus fortes que les miennes, mais quand même, il y a quelque chose où on sent que c'est universel et ça nous a beaucoup touché, enfin, toute l'équipe qui était là aussi de temps en temps, ma mère, pareil, on arrivait quand même à se Il y avait un effet de miroir avec tout ce qui se passait à l'intérieur, peut-être pas que les patients, aussi les soignants. Quoi.
Est-ce que vous êtes fait aussi attraper comme ça avec ce documentaire?
Oui, en fait.
Embarqué.
Je voulais juste rajouter que en fait, le film, c'est pendant et après Covid, donc
oui.
Nous, on se sent tous finalement concernés par la santé mentale après avoir vécu le confinement, je pense. Et d'attaquer ce film juste après les confinements, ça m'a évidemment poussé dans mes retranchements fait profondément sentir que la solitude pouvait aussi amener des cas assez graves que l'on voit dans le film. Et pour en revenir à la séance du théâtre, c'est le seul moment où tout d'un coup on sent... une espèce de liesse et en faisant la musique tout seul chez moi, ça, forcément je pense à tout ça et ça a beaucoup bousculé pas mal de choses.
Oui, c'est quand vous avez donné tout à l'heure l'image de avoir l'ordinateur près de votre piano avec la voix de Jamal, je me suis dit mais là on est quand même sur ce transfert de la voix qui rentre en fait dans le cerveau et qui reste aussi où ça résonne.
Ouais, j'avais l'impression d'entendre plusieurs voix. J'ai même composé une petite fuguette à plusieurs voix pour le film. Ouais, effectivement, c'est là j'en ris, mais c'est vrai que ça m'a profondément bouleversé de voir non seulement l'état des hôpitaux pour parler que de ça, mais aussi la façon dont Jamal amène toute son énergie
et toute son humanité.
On en avait tellement besoin après tout ce qu'on a pu vivre, même si c'était pour certains beaucoup plus facile que d'autres. C'est touchant, quoi. Et je pense que c'est un film à voir absolument, quoi, pour cela.
C'est un film nécessaire.
Ouais, tout à fait.
Et est-ce qu'on sait où on est, Jamal?
Ouais, on est resté assez proches avec Gaël et Jamal, et on se voit souvent. Et du coup, après notre venue à Beaujon, après le film, il a continué un peu à Beaujon. Ensuite, il est parti dans un autre endroit. Il s'est rendu compte que c'était pas vraiment pareil, que c'était pas dans ces hôpitaux comme ça de la PHP qu'il allait pouvoir, en tout cas, faire son métier comme lui, en tout cas, l'entendait. Et je crois qu'il a fait plusieurs missions à Fresnes, en prison. Pareil, le milieu carcéral, il me dit que c'était très compliqué. Avant, la bureaucratie, c'était encore pire. Et du coup, je pense qu'à un moment, il s'est dit, je vais essayer de me poser un peu, voir comment faire les choses, trouver des lieux où je pourrais soigner, enfin, en tout cas, accueillir les gens de la façon dont je l'entends, moi, et pas être restreint par des choses, des absurdités bureaucratiques, quoi. Et voilà, il est très jeune, donc on a commencé à filmer, il avait 33 ans. Du coup, je pense qu'à un moment, il a un besoin de se poser, réfléchir à comment continuer à faire son métier comme ça dans le public.
En tout cas, c'est oui, effectivement, comme on dit, c'est une œuvre qui est nécessaire et qui touche deux endroits sensibles, c'est-à-dire il y a évidemment un sentiment d'émotion très forte et qui est presque mélancolique ou tragique par rapport à l'état actuel du système de santé en France et des personnes qui continuent à le faire tenir, et en même temps l'espoir et l'humanité qui traverse ce film, incarné par Jamal, mais aussi par les patients, par l'entourage, parce que c'est un film qui est profondément humain et qui arrive à garder beaucoup de délicatesse tout en étant au plus proche. Et ça, c'est pas facile.
Merci.
Gaël Racoton-Drabé et Nicolas Peduzzi, une dernière question. Est-ce que aussi votre duo a permis cette délicatesse-là, puisque vous faites partie de l'équipe du film et que visiblement c'est une collaboration réussie, est-ce que vous êtes amené à potentiellement retravailler ensemble sur d'autres projets, ou c'est encore confidentiel?
Bah, pour l'instant, il faudrait que les projets se fassent. peut-être dans 10 ans, si on arrive à monter les prochains. Non, mais oui, moi, j'aimerais. Ce serait un honneur de retravailler avec Gaël.
Avec un grand plaisir.
Surtout que j'ai rarement vu un musicien qui était capable d'avoir une palette comme ça aussi étendue, de passer du classique à du jazz, à du, ce que je disais tout à l'heure, l'électro. Je lui ai fait écouter le premier morceau de Gabber, qui est au début du film de Evil Grimace. Et il a repris des thèmes après, en mélangeant ça avec. Donc vraiment, c'est un bonheur, quoi, de bosser avec lui. Je comprends vite.
Je te retourne le compliment.
Vous êtes en compétition officielle du MCM dans la catégorie long métrage. La remise de prix est à l'heure où nous enregistrons ce plateau en direct du festival demain, le samedi 6 avril 2024.
Surtout qu'il y aura la sortie en salle le 1er mai. Ah. Donc ça, c'est vraiment aussi important.
C'est quand même bien aussi de venir financer aussi le film, parce que on sait que dans le documentaire, les économies sont quand même fragiles, et ça mérite vraiment soutien. Merci Nicolas Peduzzi et Gaël Racoton-Drabé d'être venus.
Merci à vous de nous accueillir.
Merci beaucoup Radio Grenouille.
On écoute tout de suite la bande sonore du générique de la célèbre série Scrubs, qui décrypte avec humour le système de santé américain du point de vue des internes. Le docteur Abdelkader, qui l'évoque là dans le documentaire État Limite, parle donc de ce son-là. C'est un clin d'œil à ces combattants de l'ombre avec Laszlo Bane et le titre Superman.
Just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. You've got your love online. You think you're doing fine, but you're just plugged into the wall. Tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told, gotta break free to break the mold, but I can't do this all. Superman.
Superman de Laszlo Bane, et nous sommes de retour dans le Café Bloom au rez-de-chaussée de l'Artplex dans le cadre du festival Musique et Cinéma Marseille, et nous sommes avec Coralie Laverne et Max Zippel. Bonjour.
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 Vous êtes invité aujourd'hui au micro de Radio Grenouille pour parler du court-métrage Aïcha, donc qui a été réalisé en 2023. Coralie Laverne, vous êtes réalisatrice.
Oui.
Mais aussi actrice, productrice et scénariste. Bon, sur Aïcha, en l'occurrence, vous êtes réalisatrice et scénariste.
Exactement. Et productrice, je ne le suis pas. On m'a rajouté cette casquette, mais non.
Ah bon, oui, d'accord.
Dans la vie, non. Je fais tout le reste, mais pas ça.
Il y a plusieurs bios sur Internet alors qui disent une bêtise.
Ok. Je vais aller corriger ça. Ok, merci.
Bon, ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas le métier le plus artistique.
Non, c'est préférable. Vaut mieux pas me confier ce genre de choses en plus. L'artistique, ça va, le reste, pas évident.
Puis les deux casquettes réalisateurs, les réalisatrices productrices, ça peut souvent mettre en difficulté, hein, parce qu'entre le cœur et la raison, c'est pas toujours simple.
Complètement.
Max Zippel, vous êtes compositeur et musicien.
Tout ça.
Ouais, voilà, ça, pas producteur.
On parle de production aussi en musique, mais ça a un autre sens.
Ça va. Vous avez travaillé sur différents projets d'art visuel, mais aussi au cinéma, notamment sur des séries Netflix, plusieurs longs métrages. Là, vous êtes à la composition musicale donc, du court-métrage Aïcha. On vous accueille en duo pour cette collaboration. C'est votre première collaboration?
Et pas vraiment. En fait, on avait mon précédent court-métrage qui s'appelle Frères et Sœurs. À l'origine, je voulais mettre de la musique dessus, et Max avait fait des maquettes que j'avais trouvées sublimes et qui en plus avaient des sonorités orientales un peu, enfin méditerranéennes. Et finalement, j'avais fait le choix d'enlever toute musique pour qu'on. C'était un film qui était très fort dans l'immersion, dans les calanques, et je voulais que tout ça ressorte très fort. Donc, on avait fait le choix, et c'était déchirant d'enlever la musique. Et je m'étais dit, si je fais un autre film, je retravaillerai avec Max. Donc, c'est notre deuxième collaboration en fait.
Et même on peut dire qu'avant on s'était d'abord rencontré. Coralie, elle avait fait actrice dans un de mes premiers clips d'un projet solo. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ouais, complètement.
Donc pour reprendre la genèse de Aïcha, puisque là tu as évoqué le cadre aussi de ce court-métrage, au niveau de l'histoire, Elsa a 12 ans et vit avec sa mère dans un petit village de Provence. Elle va rencontrer pour la première fois son grand-père maternel qui arrive d'Algérie pour une visite. Ce qui va faire considérer sous un nouveau jour sa relation avec sa mère. J'essaie d'être succincte sans trop en dire non plus.
Ah, je pense qu'on peut en dire plus.
Vas-y.
Parce que ce synopsis, on a essayé de le faire très court, c'est vrai. Mais en fait, c'est un film surtout qui parle de l'identité. C'est-à-dire que Elsa, quand elle va rencontrer son grand-père, elle va découvrir que sa mère a changé de prénom. elle avait un prénom algérien qu'elle a changé quand elle est arrivée en France, et sa propre fille, donc Elsa, notre héroïne, n'était pas au courant. Et en fait, elle veut faire le chemin inverse de sa mère. Elle veut comprendre d'où elle vient, elle veut savoir d'où vient sa mère, quel est son prénom. Et donc, on n'en dit pas trop, mais un peu quand même. Mais c'est important pour comprendre la thématique du film, de raconter ça.
Et Coralie Laverne, justement, cette thématique de l'intergénérationnel, la filiation, c'est pas votre premier essai en termes de thématique et de fil rouge de film, puisque sur Frères et Sœurs, votre précédent court-métrage, on y était aussi.
Oui.
Ça vous habite ?
Oui, c'est très juste. C'est marrant parce que, à la fois, du coup, c'est, la filiation est encore là, mais après, c'est traité de façon très différente. Dans Frères et Sœurs, on parle vraiment d'un lien entre un frère, une sœur et un enfant qui fait le lien entre les deux. Là, sur Aïcha, la filiation est très présente, mais la thématique du film, c'était vraiment celui de la transmission, de l'héritage, de la reconnaissance de nos origines, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la filiation, vous avez raison, ouais, qui est très présente.
Par ailleurs aussi, quelque chose qui est présent, c'est le cadre, donc les Calanques, sa lumière, c'est ancré ici, pas seulement Marseille en tant que ville, mais en tout cas la région. Pourquoi avoir choisi ce cadre-là spécifiquement?
Bah parce que j'ai grandi ici.
Oui, bah, j'ai ouï dire que l'équipe de tournage était plutôt locale aussi.
Ah bah oui, carrément. Bah oui, oui.
J'aime bien l'évidence.
Une grande partie, après, il y a des personnes qu'on a pris de Paris, mais une grande partie de l'équipe est marseillaise, ouais, carrément.
C'est bien, il faut faire vivre le mais tissu local.
Surtout, il y a plein de gens géniaux. On avait une équipe merveilleuse, carrément.
Et Max Zippel, pour vous, terrain de jeu aussi bien connu, Marseille, ses environs, ou pas du tout?
Si, si, moi je viens tout le temps. Je viens,
de
cœur. Le seul truc qui m'empêche de venir plus, c'est que j'aime trop. Et que.
Et pourquoi c'est un problème?
Bah parce que ça fait ressortir un côté chez moi qui est très créatif, et, mais qui est un peu foufou. C'est le côté bordélique dont je suis amoureux à Marseille. Si je le fais tout le temps.
Faut le calmer,
je vais dans les abîmes, ouais.
Ça peut du coup déborder sur la composition.
Absolument,
le côté
ouais.
Bordélique. Coralie, vous l'évoquiez juste avant, le fait que vous aviez été charmée, ou en tout cas ce qui vous avait plu aussi dans des compositions de Max, c'était les notes orientales ou quelque chose qui était déjà teinté au niveau de ses compositions?
Oui, à la fois il y a ça, mais il y a aussi un dialogue qui se fait. C'est-à-dire que, bon, après c'est vrai qu'on commence à bien se connaître aussi d'un point de vue créatif avec Max, et je pense qu'il saisit assez vite là où j'ai envie d'amener... des choses ou un univers où, et on a même commencé à travailler ensemble au moment de l'écriture du scénario. C'est-à-dire que je suis assez quand j'écris très souvent en musique, je donne des indications hyper précises dans les scénarios dans ce moment-là une musique démarre et c'est à peu près ça comme rythme, comme ambiance et tout. Et donc au moment de l'écriture du scénario, j'ai tout de suite fait appel à Max en disant bon, alors attends, du coup j'ai envie d'avoir ça proche de moi pendant que j'écris. Et c'est un peu cette compréhension et cette facilité de dialogue et d'échange qui nous a fait, enfin, qui m'a vraiment donné envie de retravailler.
Et donc Max, vous intervenez dès l'étape du scénario finalement.
En tout cas, en termes de pensée. L'histoire déjà bien installée. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a eu ce désir de m'intégrer sur la fin de l'écriture, milieu fin, puisqu'on a vu en fait sur l'expérience précédente à quel point on avait des choses qui étaient dommages, des choses qui n'étaient pas anticipées, du coup. Des plans qui pouvaient durer beaucoup plus longtemps avec la musique, ou au contraire des scènes, parce que la musique c'est vraiment un univers du non-verbal aussi, du coup ça permet de raccourcir des dialogues parfois, d'être plus sur l'émotionnel, et c'est très riche. Et d'ailleurs l'extrait que vous allez passer tout à l'heure, c'est y a pas de dialogue, et donc ça permet de prendre le relais sur,
et ça raconte plein de choses.
Et ça raconte beaucoup de choses.
Ouais.
Et justement, c'est tout l'aspect délicat aussi de l'utilisation de la composition musicale à l'image, de là où elle peut souligner, voire carrément donner le ton, ou des fois aussi alourdir ou être décalé. En tout cas, c'est toujours quelque chose de subtil, et c'est sur le fil d'arriver à avoir une composition qui colle aussi à l'image et qui lui rend honneur. Et ça marche dans les deux sens, puisque comme vous le disiez, la musique, elle peut être profondément émotionnelle.
Donc c'est de la dentelle. Parfois, on enlève. On a travaillé énormément une musique et on enlève. L'idée, c'est de qu'on n'entende pas la musique, en fait. On doit juste ressentir un film dans sa globalité. Et en fait, on ne devrait jamais noter « Ah, le montage est incroyable, la réalisation est incroyable, le jeu d'acteur... » Ça peut arriver, mais on devrait vivre juste une histoire et recevoir avec le cœur et les sens en général. Et c'est vrai que...
C'est un homme du cœur, même.
mais c'est vrai qu'on n'hésite pas, on n'hésite pas à enlever parfois, on a travaillé de musique, et finalement, parfois, le silence, c'est la meilleure musique qu'il y a à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment... C'est dans les détails qu'on a passé des heures et des heures à questionner des longueurs de musique,
Et justement sur la place qu'on laisse à la musique, parce que là dans Aïcha elle est présente sans être omniprésente, donc comment vous avez pensé cet équilibre de comment on fait pour la laisser de côté à certains moments et sur certaines scènes, donc évidemment effectivement l'extrait qu'on va diffuser dans pas si longtemps, là la musique elle est aussi actrice aux côtés des actrices.
Carrément.
Mais donc vous, comment vous avez pensé cette architecture musicale dans Aïcha pour que ça soit à la bonne place finalement, que ça soit pas trop ou pas assez?
Là j'ai envie de dire que ça s'est fait un peu au fil de l'écriture, c'est un peu ce que je disais, comme quand j'écris j'ai besoin de me projeter beaucoup, mais après en écrivant Sim, j'avais envie d'un film où la musique était forte parce que ça fait partie, je parle de transmission, d'héritage. Je pense que l'univers sonore et musical d'un héritage, c'est très présent. Donc ça fait vraiment partie même de ce que j'avais envie de raconter. Et après, il y a quelque chose, j'ai besoin d'en parler parce que c'est pas mal. J'ai fait une résidence, moi, qui s'appelle la résidence trio de la musique de la maison du film, qui permet pendant une semaine de travailler avec des compositeurs. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec un scénario. Le scénario est proposé à différents compositeurs et ces compositeurs proposent des choses. Et ça permet... du coup de se projeter aussi très vite au moment du travail dans différents univers musicaux et de se dire ah oui mais en fait là on va trop loin, là il y en a trop, et tout est question de dosage en fait, à la fois même quand on compose la musique mais aussi quand on décide de on va en mettre à tel et tel endroit du film.
C'est parfait pour pouvoir écouter justement une partie d'Aïcha et de parler de cette histoire à la fois de dosage et de subtilité.
Super.
C'était un extrait du court-métrage Aïcha, et notre réalisateur Alex Papi-Simonini nous disait en off que c'était franchement magnifique. Je crois qu'on a, conquis d'autres personnes dans le Café Bloom. Est-ce que Coralie Laverne, donc, tu peux nous décrire ce qui se passe pendant cette scène, cet extrait?
Carrément. C'est super comme choix parce que c'est une scène qui raconte presque le court-métrage. On a cette petite fille qui vient de rencontrer son grand-père et son grand-père lui a donné une main de Fatma. Pour elle, c'est hyper chargé en sens, en symbolique, etc. Et elle est dans son lit, elle dort avec sa maman. Et en fait, elle met la main de Fatma sur son front et c'est comme si elle, elle recevait ou tout l'héritage que elle a fantasmé, qu'elle a imaginé et qu'elle a enfin là à portée de main, parce que c'est dans sa main, c'est la petite main de Fatma qui lui a offert son grand-père. Et elle va prendre cette petite main et elle va la mettre sur le front de sa maman qui dort, parce qu'en plus son grand-père lui a dit c'est quelque chose qui peut te protéger. Et en fait, ce mouvement de je prends la main de Fatma et je la mets sur le front de ma mère aussi, c'est un peu le j'ai envie que toi aussi t'embrasses ton héritage, ton identité, ton et en plus il y a quelque chose de protecteur dans le geste de cette petite fille vis-à-vis de sa mère. Et donc cette musique, il faut savoir que cette séquence à l'origine, on s'était dit tiens, on va peut-être faire de l'animation dessus, imaginer peut-être un univers qui correspondra au fantasme de la petite fille, etc. Et en fait, quand on a vu cette musique avec les images, on s'est dit mais on raconte tout et surtout on laisse le spectateur imaginer et projeter ce qu'il a envie de projeter par rapport à ces sonorités là. Et on a fait aussi un gros travail sur le sound design avec des voix d'enfants, des mots en arabe qui projettent vraiment ce que la petite fille imagine de ce que pourrait être l'Algérie.
Et de cet héritage supposé aussi, puisque il y a, ouais, y a
plus
cette
que supposé du coup.
Oui, ouais, voilà, mais c'est cet héritage qui lui manque et qu'elle a envie de retrouver, de saisir. C'est vrai que c'est une scène qui est profondément introspective, où il y a aussi c'est chaud et à la fois un peu flou comme image. Donc on est vraiment saisi, où la place du son, elle est centrale. Max Zippel, vous, alors quel plaisir vous avez pris sur cette scène-là, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de travail. Hein.
Oui.
Vous êtes amusé ?
J'ai cru que t'allais dire non. C'est venu d'un coup.
C'est pas un geste.
Juste un geste.
Ceci dit, c'était quand même très intuitif parce que j'ai utilisé le oud, qui est un instrument traditionnel de la région. Et c'est vrai que moi, je ne joue pas de oud à la base. Et du coup, c'est vrai qu'on avait fait des essais aussi où on allait plus peut-être engager vraiment des virtuoses de ce style de musique un peu classique, traditionnel. Et en fait, ça s'est fait très, très naturellement. C'est-à-dire que la question de la transmission entre l'Algérie et la culture française, en fait, simplement en passant par les fibres, mes fibres, je suis franco-allemand, mais dans mon imaginaire à moi, ça racontait aussi une partie assez naturellement, finalement, de ce que raconte le film, dans le trajet intellectuel et sentimental de ce que peut évoquer ce genre de sonorité. Mais c'était la première fois que je jouais du oud, je l'ai loué pour l'occasion j'étais quand même agréablement surpris que Coralie soit
pas mal
tout
du
de suite contente. Ouais.
Bah oui. Bah oui.
Et les acteurs ont pu tourner avec cette musique d'ailleurs.
Ouais. On l'avait sur le tournage, c'était génial.
Oui, donc ça avait été fait en amont, ouais. Et donc vous avez diffusé cette musique pendant le tournage.
Et toute l'équipe, donc on avait diffusé, c'était hyper fort sur le plateau.
Oui, et ça donne cette émotion.
C'était génial, toute l'équipe
émotion.
Était hyper, hyper émue, ouais, c'était marrant.
Quelque chose qui est assez bouleversant dans le court-métrage Aïcha, c'est effectivement cet attachement au territoire et à cet aspect fragmenté de l'histoire. Moi, je trouve que c'est profondément pertinent de l'inclure ici à Marseille, puisque c'est une ville profondément cosmopolite et aussi qui est fragmentée par l'histoire. Donc on sent au travers de ce choix sémantique votre propre attachement, Coralie.
Oui, clairement. Bah, oui, parce que il y a ça aussi quand tu m'as demandé pourquoi à Marseille, parce que j'y ai vécu, mais aussi c'est une histoire qui est un peu inspirée d'une histoire personnelle. Donc quand je l'ai traversée moi étant enfant, c'était ici aussi. Donc il y a une forme de fidélité à la réalité qui m'a inspirée ce récit, ouais.
Et pour la suite des aventures, des projets, j'ai ouï dire qu'il y avait un projet de long métrage, potentiellement.
Oui, carrément.
Est-ce qu'on va retrouver ces motifs de la filiation
Très fort, oui. Ouais. Carrément, carrément. C'est un projet qui ne va pas parler de l'identité multiple, mais mon personnage principal est un personnage avec une double culture. Je trouve que ça crée des densités fabuleuses dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on traverse en tant qu'être humain, quoi. Et donc ça m'intéresse de mettre ce personnage-là, mais au cœur d'une histoire autre qui dépasse un peu cette thématique. Voilà.
Et d'un point de vue musical, ça permet aussi d'emprunter à différents univers, à différentes cultures. J'imagine que ça doit être aussi un exercice plaisant pour un compositeur de pouvoir emprunter à ces différentes cultures en termes de sonorité.
Et même Nazia serait bien d'en parler.
Nazia, oui.
Qui est Nazia?
La chanteuse de la musique de générique.
Oui, c'est la scène de fin, donc ça déborde sur le générique. Et c'est une chanteuse traditionnelle marocaine, adorable et hyper douée. Et c'était, là aussi, c'était une histoire de curseur. Vraiment, où est-ce qu'on. À quel point on est. Parce qu'elle chante très, très traditionnelle, donc elle a l'habitude d'être. De faire des chants très, très traditionnels avec beaucoup d'ornementation vocale. Et là, c'était comme jusqu'où on va pour raconter ce qu'on veut raconter. C'est très très fin, c'est un travail qu'on a fait avec elle. Et sur les paroles, Coralie a appelé sa maman pour pouvoir avoir des souvenirs du pays, pour pouvoir parler de la nostalgie du pays, et qui nous a raconté des souvenirs d'enfance incroyables.
Non, tu parlais de fragments. Alors oui, les paroles de cette musique. Donc j'ai appelé à la fois ma mère en lui disant « Tiens, t'as des souvenirs d'Algérie ?» Et j'ai aussi appelé ma tante en me disant « Est-ce que tu te souviens? Est-ce que t'as des souvenirs de ton enfance ?» Et alors, les deux versions étaient complètement différentes. Je me suis dit « C'est fou, la puissance du... » Enfin, la mémoire est...
La mémoire est vraiment... quelque chose de à la fois vivant et...
Et tellement propre à chacun, et tellement fragmenté aussi. Mais à partir de ça, on a collaboré aussi avec Nazia sur les paroles. Elle nous a traduit les paroles qu'on a écrites pour vraiment écrire quelque chose qui parle de... Parce que le dernier plan du film, c'est sur la mer... qui enfin... faut pas tout dire. Mais il y a une forme d'acceptation de son passé, de son histoire. Et donc les mots, les paroles de la musique qui sont sur la mer parlent vraiment de cette nostalgie du pays. C'est le mot de la fin du film.
Et comme mot de la fin, en tout cas en ce qui concerne votre collaboration, visiblement c'est une collaboration réussie, sinon on n'aurait pas cette ambiance-là pendant ce plateau.
Ouais.
Est-ce que vous envisagez de réitérer l'aventure, l'expérience dans la suite des projets?
Bah grave. Du coup je prends la parole. Bah oui, carrément. Bah, j'espère travailler suffisamment pour qu'on puisse en faire d'autres, voilà.
Et Max, vous avez déjà l'expérience du long métrage,
Alors non.
Ah non?
Non.
Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai pu sur quoi je suis tombée sur l'internet?
J'ai fait des synchros, c'est-à-dire que c'est des musiques sur des projets perso, genre Concorde ou Max Futur, qui ont été utilisées dans des séries ou dans des films. Après, ça ne serait tardé.
Bon, en tout cas, est-ce que c'est un désir d'aller vers le long métrage?
Oui. À la fois, ça fait peur, c'est très excitant. Mais quand on est aussi passionné, qu'on s'engage autant, encore une fois avec le cœur, désolé, mais c'est...
C'est un romantique, c'est... En fait.
Oui, c'est vrai que c'est un engagement, c'est un voyage qui est très prenant, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, on ne s'arrête jamais de travailler. C'est-à-dire qu'on se réveille la nuit avec des idées.
On ne dort plus.
On dort... en fait, même en dormant, on travaille. Donc, non, c'est magnifique, j'ai hâte. Hein.
Moi, quand je dors, je dors.
Et on vous souhaite donc une grande insomnie créative pour les prochaines années.
Avec plaisir.
Peut-être à l'année prochaine sur le MCM.
Bah avec plaisir.
Et merci de nous avoir invités.
Merci ouais, à vous.
Carrément.
Coralie Lavergne et Max Zippel. Merci.
Très fan de merci. Radio Grenouille.
Par ailleurs, le court-métrage Aïcha est en compétition officielle donc, pour le Festival Musique et Cinéma Marseille. Donc on vous souhaite une bonne fin de festival et une bonne circulation évidemment du court-métrage.
C'est gentil. Merci beaucoup.
On arrive doucement à la fin de ce plateau en partenariat avec le Musique et Cinéma Marseille. On vous remercie pour votre écoute et avant de se quitter, nous terminons sur une note cosmopolite à l'image de Marseille avec Rachid Taha qui en 1985 revendiquait de tout son esprit punk sa multi-ethnicité, sa voix qui porte de part et d'autre de la Méditerranée. Bonne suite sur le 888 de Radio Grenouille.